C'est un peu spécial ce matin parce que je ne vais pas faire une étude de texte, pas une étude en profondeur, mais simplement un partage, l'humble écho d'un cœur. Et en filigrane de mon partage, un témoignage de certaines de mes étapes. Il y a très longtemps que ce matin, on a rencontré un jeune qui va se faire baptiser. Il y a très longtemps que moi, j'ai passé par cette étape. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, quelques années. Aujourd'hui, je suis là, je vous parle. Il n'y a pas si longtemps que ça, une étape difficile mais cruciale dans ma vie. Une étape de grâce, une étape liée à la grâce. Une étape où la grâce, si souvent intellectualisée, si souvent verbalisée, si souvent même prêché, puisque je l'ai fait souvent, était resté peut-être dans la tête, peut-être à un niveau intellectuel, peut-être à une certitude définie, expliquée, mais pas intégrée. À cette époque-là, j'étais ancien même. J'avais beaucoup de choses surmenées, beaucoup d'engagement dans l'Église, énormément au travail, et je me sentais pas bien. Je me sentais pas au niveau. Et à ce moment-là, j'ai fait comme une erreur que Dieu a utilisée. Et je me suis retiré de mes responsabilités d'Église. Et j'ai été envahi par mes responsabilités de vie et professionnelles. Et j'ai glissé loin de Dieu, pas si loin que ça, je venais là, loin de la grâce. Et j'ai glissé ma vie a glissé à un point que plus rien ne pouvait monter de moi comme on l'a fait ce matin. Ni des prières, ni même la lecture de la Bible, ni la louange. Et entre parenthèses, je l'ai partagé cette semaine, mais pendant cette période, c'est la louange du corps qui m'a porté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on loue comme ce matin, mais encore un peu quand j'en parle, systématiquement des larmes viennent parce que ça me reparle de cette époque. Et à ce moment-là, je suis descendu tellement bas dans mon âme, dans la profondeur de mon âme. J'ai évoqué ça même certaines fois dans mes mots, comme les portes de l'enfer, parce que j'étais arrivé à un point où je me sentais tellement mauvais, tellement nul, tellement pas au niveau, j'avais pas atteint le but et Dieu ne pouvait plus rien pour moi. Et j'étais chrétien. Je m'appuyais depuis des années sur ma valeur et j'étais déçu et j'étais certain, mais certain, puisque j'étais vraiment au fond de mon âme, que Dieu ne pouvait plus rien pour moi. Et Christ est venu me chercher là, au fond. Je croyais que c'était le fond, mais en fait, il y a un filet avant le fond. Et il est venu me chercher là. Et Christ est venu par une vision. Ce jour-là, je ne sais pas comment l'expliquer, je l'ai vu sur la croix. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là, à plat ventre, le nez dans la boue, à te lamenter, alors que moi je suis là pour toi. Relève le nez de la boue. C'est une certitude. Et c'est pour ça que mes larmes coulent, parce qu'à chaque fois qu'on parle de la grâce de Christ, je pense à là où il est venu me chercher. Ce n'est pas des choses qui forcément se voient, ce n'est pas des choses extraordinaires qu'on vit, mais il est venu me chercher là. Et Pourtant, j'étais sûr d'avoir compris la grâce. Mais à ce moment-là, il a, par cette vision, par ses paroles, par la situation dans laquelle il est venu me chercher, ou là où il est venu me chercher, il m'a montré ce que c'était que sa grâce. Et il m'a relevé, tranquillement. Et depuis ces années, il a mis plusieurs choses dans mon cœur. À un moment donné, il m'a mis dans mon cœur de donner ma démission. Une lettre presque écrite. Je l'ai écrite, je l'ai donnée à mon patron. J'avais l'impression que j'étais soulagé, que j'allais être soulagé. Et puis, mon patron m'a retourné et puis il m'a dit, il y a sûrement quelque chose à faire. Et je n'ai pas été au bout, j'ai fait un deal. J'ai travaillé à 80%. Ça m'a permis de m'occuper de l'association pour le Burkina, de certaines choses. Et ça m'a permis de revenir tranquillement dans l'œuvre du Seigneur. Mais c'était à 80%. Ça a duré un an et demi. Et puis, professionnellement, on m'a poussé à nouveau reprendre, à reprendre plus, à 100%, et à de nouveau être surchargé. Et ça a été dur pendant plusieurs années. Mais j'ai appris un certain nombre de choses. Et puis, petit à petit, le Seigneur mettait dans ma tête que j'étais pas quelque chose qui n'allait pas, que je n'étais pas à ma place. Et dernièrement, j'ai pris une décision de quitter mon job, envers et contre tout, contre toute raison, contre la vie de mon patron, peut-être contre la vie de beaucoup. Volontairement, j'ai quitté un poste important, des revenus importants. Je ne suis pas là ce matin pour vous donner comme exemple ce que je fais, mais pour vous expliquer que Dieu m'a emmené dernièrement encore, et ce que j'ai ressenti dans cette période, c'est qu'il m'a dit, tu t'es relevé de la boue là, mais j'ai l'impression que tu es toujours là devant la croix, au pied de la croix à me regarder. Je vous adresse cette parole ce matin. Le Seigneur nous a relevés. Il est venu nous chercher là où on était. Il nous a donné sa grâce. Est-ce qu'on est resté simplement au pied de la croix à le regarder, ou est-ce qu'on est passé à travers? Rien de ce que j'aurais pu faire ne pouvait me rendre acceptable. Mon péché, quel qu'il soit, avait envoyé Jésus sur la croix, car il n'y avait pas d'autre solution pour que je puisse m'approcher de Dieu. Ou plutôt, il a accepté d'y monter par miséricorde, qui étymologiquement veut dire ouvrir le cœur au mystère. C'est-à-dire que Dieu ouvre notre cœur au mystère de sa grâce incompréhensible. Sur la croix, destiné aux traîtres, aux pires criminels, aux maudits, Jésus a payé le prix des pires de nos crimes, de tous nos crimes, nos péchés, sans exception. Il n'en est aucun qui ne soit couvert par le châtiment qu'il a subi. Il a payé, expié mes pires péchés, tes pires péchés. Dans Jean 8, la femme adultère, a priori, n'a rien demandé, ni nié. Elle savait ce qu'il attendait. Elle attendait la mort prévue par la loi, se savait perdue. Après que Jésus ait dit que celui qui est sans péché jette la première pierre, voyant qu'ils étaient tous partis, il lui dit, où ceux sont qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc condamné ? Personne, Seigneur, lui répond-elle. Alors celui qui aurait pu la condamner et lui jeter la pierre, la mettre à mort, lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. C'est le pape François qui a dit, Jésus va plus loin que la loi qui condamne à mort, il protège le pécheur d'un juste châtiment. Et il a dit aussi, l'humanité est blessée et ne sait comment soigner ses blessures, ou pensent que c'est impossible. Et moi, je pense que c'est là le drame. Car si la perte du péché, de la conscience du péché est dramatique, la perte de l'espoir, de la grâce, l'est encore bien plus, à mon sens. Le remède existe, la guérison existe, si seulement nous faisons un tout petit pas. Vers Dieu, ou si nous avons même que le désir de le faire. Mais il est important d'avoir vraiment ce désir, de passer de l'autre côté de la porte, de la croix, sachant qu'on va perdre certains de nos repères dans ce monde-ci, et surtout les mauvais. Ce qui pourrait paraître facile, de lâcher les mauvais. Mais souvent, on est très attaché à nos mauvais repères, même quand on sait qu'ils le sont. Il est possible que tu n'aies pas la force de faire le pas à cause de ta faiblesse. Mais le désir sincère de le faire est un début suffisant pour que la grâce puisse agir. S'il y a quelqu'un ici qui pense ne pas avoir besoin de la grâce, alors il peut s'en aller. Dieu ne lui sert à rien. Mais s'il y a quelqu'un ici ce matin qui pense qu'il est tellement sale, souillé, que Dieu ne peut plus rien pour lui, alors au contraire, il est à sa place, car c'est lui que Jésus est venu chercher. Non seulement sur la croix il y a 2000 ans, mais là, maintenant, ce matin, c'était là son plan de toute éternité. Venir ce matin chercher celui qui se croyait perdu pour toujours de par l'ampleur de ses trop grands crimes. Et ce, il l'a fait en payant lui-même le prix de ses péchés, quel qu'il soit. Les miens, les tiens. Il n'y a aucune différence entre toi et moi en Christ. Car dans sa miséricorde, bien plus grande que le plus grand de nos péchés, il a payé le prix de toutes nos souillures, même celles qui nous semblaient incurables. Et comme la femme adultère, à qui, notons-le en passant, il n'a pas demandé d'explication sur sa vie, il te dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Le pape François a encore dit, Dieu ne pardonne pas par un décret, mais avec une caresse. Il le fait en caressant nos blessures dues au péché, car il est impliqué en Christ dans le pardon. Le péché ne s'efface pas comme une tache juste en surface. Mais Dieu vient panser et soigner nos plaies infectées en profondeur par nos péchés, et efface par le pardon qu'il nous a obtenu, par pure grâce, au prix de son sang à la croix, toute condamnation contre nous, et nous ouvre les portes du royaume éternel. Et ce, même si certaines fois les conséquences de nos fautes demeurent pour un temps dans notre vie ici-bas, et que nous pourrions avoir l'impression de ne pas être pardonnés. Je ne jette la pierre à personne, car moi-même j'ai mis du temps à comprendre et accepter la grâce. Je l'avais fait intellectuellement, mais pas effectivement dans mon âme. Dans ce temps d'attente pour moi, je n'ai pas vraiment de vision. Il y a des moments difficiles, des moments de doute, on manque de force, c'était le cas cette semaine. Et cette semaine, c'était difficile. parce que mon épouse et moi, on était tous les deux en manque de force. Et puis, c'est d'autant plus fort qu'elle est ma force. C'est bizarre de dire ça, même si je peux la casser en deux en la serrant trop fort dans mes bras, elle est ma force. Mais notre force est en Dieu, il y a des moments où on doute. C'est un peu comme les espions, lorsque le peuple est arrivé à l'entrée du pays de Canaan. Les espions sont allés voir ce que Dieu avait dit, c'était la réalité, il y avait du lait et du miel. Tout ce qu'il avait dit était là, mais il y avait des géants. Ils ont vu avec leurs yeux humains. Ils n'ont pas vu avec les yeux de la foi. Ils ont évalué la difficulté en rapport à leur propre force. Et moi, je fais ça chaque matin. Et chaque matin, j'ai besoin d'être renouvelé. Et quand nos attentes sont déçues, souvent notre foi s'affaiblit. Mais je voudrais lire avec vous un passage qui m'a touché cette semaine. La deuxième année du règne de Darius, c'est dans Agé, au chapitre 1. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Sheltiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons, lambrissées, quand ce temple est détruit? Voilà ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous sommez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes habillé et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Pardon. Voilà ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? Déclare l'Éternel, le maître de l'univers. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun dans votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur la montagne, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Zorobabel, fils de Sheltiel, le grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel, leur Dieu, leur avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Sheltiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu, le 24e jour du sixième mois, la deuxième année du règne de Darius. J'ai été très repris cette semaine par ce texte. D'autant que j'étais en train de réfléchir à refaire notre cuisine. Alors, je ne sais pas ce qu'il adviendra de la cuisine. D'autant que je pense que le plus gros handicap, c'est qu'on ne sera jamais d'accord avec ma femme. On a aussi parlé cette semaine des offrandes à quelques-uns et des prémices que Dieu demandait en offrande à son peuple. Et loin des prémices, j'ai l'impression suivant de lui donner les miettes de mon matériel, bien sûr, mais aussi de mon temps, de mes pensées, de mes préoccupations, de mes actions. C'est une question d'équilibre, mais l'équilibre est en Dieu. Il n'est pas dans nos choix de vie, très limité par notre vision courte et floue. Je ne parle pas là tant d'engagement que de relation à la personne de Dieu. De relation à Dieu avant, au cœur et au-delà de nos choix, de nos vies et par conséquent de nos vies chrétiennes, de disciples au service de notre roi. Ne l'oublions jamais. Cela dépasse toute autre cause, y compris nous et nos familles, tout en sachant que lui tient compte de tout l'équilibre nécessaire à toute chose après lui. Nous en lui et lui en nous. Je ne parle donc pas de sacrifier nos familles, mais dans notre relation avec lui, de le mettre en premier dans la gestion de nos vies et de nos familles. Peut-être on donne beaucoup à Dieu, mais est-ce nos prémices ou quand même le moins bon, les restes? Ou bien sommes-nous religieux en suivant un ensemble de règles ou faisant de bonnes œuvres pour être acceptés par Dieu? Ou bien pour obtenir quelque chose? L'activité du chrétien n'est pas à l'origine d'une relation avec Dieu. Elle en est la conséquence. Et c'est totalement opposé, car peut-être au final, l'engagement sera le même, mais l'assaisonnement, c'est les lumières, et donc le goût, la liberté dans la grâce, seront totalement différentes si on est engagé par conséquence ou par religion, par intérêt. Oh, je suis certain qu'on sait tous cela et qu'on est sûr de le vivre. Mais moi, personnellement, je le mets en doute dans ma propre vie, car ce que je donne à Dieu de mes prémices me reprend profondément. Car je vous le dis et j'en prends conscience dans mon étape actuelle. Je travaille beaucoup plus à ma maison qu'à celle de Dieu. Je pourrais donner des tas d'exemples, mais je pense qu'ils vous viennent tous à l'esprit. En tout cas, moi, j'ai les miens. Et pourtant, sans dire qu'elle est en ruine, la maison de Dieu, je pense qu'il y a beaucoup à reconstruire dans nos vies, dans notre relation avec lui, nos relations dans l'Église, avec les autres frères et les autres Églises, et aussi et surtout dans ce monde autour de nous. Car dans la parabole du festin, le roi a envoyé ses serviteurs dans les rues et au bord des chemins pour chercher les malheureux et les perdus. Mais il a rejeté ceux qui étaient trop occupés à leur propre maison pour s'approcher de lui, repoussant l'invitation à quand ça les arrangerait. Je ne veux pas vous donner de leçons ce matin, mais bien au contraire, je me frappe la poitrine. Je n'ai pas de recette de vie. J'ai beaucoup de questions et peu de réponses. Chers amis, nous avons tous à travailler à la maison de Dieu, chacun et ensemble. Je ne suis pas en train de vous dire de faire ce que je fais, mais nous devons, en tant que disciples et serviteurs, vraiment nous demander si nous vivons nos vies ou celle pour laquelle Dieu nous a préparés quand il nous a dit « Viens, suis-moi ». Mais là aussi, si j'en ai souvent, pas la force, dans ma faiblesse et dans mes doutes, j'en ai sincèrement le désir. Et je voulais vous dire que mon espoir ce matin, c'est qu'avec vous tous, qui en avez également le désir, nous puissions vraiment nous rejoindre sur le chantier. Chaque fois que notre Dieu nous prépare l'ouvrage, chacun à son poste, que nous puissions, comme au temps de Néhémie, dont nous avons parlé ces derniers mois, ces dernières années, nous protéger mutuellement, nous soutenir et œuvrer à la maison de notre Dieu. Même si pour cela, il nous faut avoir la truelle dans une main et l'épée dans l'autre, symboliquement bien sûr. Mais pour cela, nous avons besoin de nous armer en nous retrouvant individuellement et ensemble autour de notre Dieu, dans sa parole et dans la relation directe que sont la prière et l'écoute. Et ce, avec persévérance, pour une communion fraternelle toujours plus profonde. Et être le sel de la terre. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce de nous avoir emmenés dans ce lieu ce matin, d'y avoir été avant nous et avec nous. Je te rends grâce pour ton esprit qui est sur nous, en nous. Seigneur, je te prie que par cet esprit de puissance que tu as mis en nous, en chacun d'entre nous, tu puisses souffler tout ce qui n'est pas de toi. Tu puisses toucher tout ce qui est en profondeur de blessures, de péchés, d'orgueil, d'incompréhension, empêche ta grâce de nous toucher. Seigneur, je te prie particulièrement ce matin, si quelqu'un ici dans cette salle a besoin de recevoir ta grâce, que tu touches son cœur en profondeur, que tu le caresses par le pardon que tu lui as obtenu sur la croix et que tu ailles au plus profond de ses plaies, effacer son péché par ton œuvre sur la croix. Seigneur, je te prie que tu continues ton œuvre dans le cœur de ceux qui sont à ta porte. Je te prie que tu fasses ton œuvre dans le cœur de ceux qui t'ont reçu et qui peut-être ont encore besoin de comprendre la grâce. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont à l'œuvre, dans ta maison, qui ont besoin d'être renouvelés, qui ont besoin d'être consolés, qui ont besoin d'être fortifiés. Seigneur, je te prie que tu touches toutes nos vies à chacun. Seigneur, je te prie que tu nous donnes la persévérance dans cette œuvre à laquelle tu nous appelles à travailler à ta maison. Seigneur, je te prie que tu nous aides à développer encore toujours plus cette communion fraternelle que ton esprit veut développer en nous. Et Seigneur, je te prie encore tout particulièrement aussi pour que tu rétablisses nos liens brisés, que tu pardonnes, tu nous as pardonné, que tu nous donnes de pardonner, que tu nous donnes d'être réconciliés, que tu nous donnes, Seigneur, de nous tenir la main, même dans la difficulté, afin que personne n'échappe à la chaîne que nous voulons former. Travaillons à ta maison, que nous puissions ramasser tout ce que tu as prévu sur notre chemin, Seigneur. Apprends-nous à nous tenir la main, Seigneur, par ta grâce, par ton œuvre, par ton pardon. Seigneur, viens toucher nos vies à chacun. Seigneur, je te prie que tu mettes sur cette église, sur cette assemblée, sur ce corps, sur chacun de ses membres, ta grâce, ta bénédiction, ta puissance, que tu viennes parler à nos cœurs, à nos esprits, chaque jour, chaque instant. Nous puissions être à l'écoute et que nous puissions nous mettre à l'œuvre pour toi, encore, pour aller de l'avant, pour aller vers toi. Seigneur, pour que nous soyons prêts le jour où tu nous inviteras au festin. Et que tous ceux qui ne sont pas encore invités, Seigneur, le soient. Par ton nom, Seigneur, bénis encore la fin de cette journée.
Bonjour. Je partage avec vous les annonces de la semaine que je vous laisse, j'espère, découvrir à l'écran. Voilà, oui. Donc, mardi, l'étude biblique des aînés. Mardi soir, la réunion de prière. C'est important de se retrouver pour prier, pour passer ces temps précieux ensemble devant notre Dieu. Le week-end prochain, c'est le week-end de sortie du groupe de jeunes à la neige. Donc c'est juste Rémi, vendredi à 19h, rencontre ici devant l'église. Le retour. Quand est-ce que c'est le retour? Comme d'habitude, donc dimanche en fin d'après-midi, voilà, aux environs des 18h. Dimanche prochain, c'est un culte de témoignage. C'est important aussi de partager ce que nous vivons avec Dieu. Donc le but est de nous encourager mutuellement. Le but est aussi de rendre gloire à notre Dieu. Donc merci de penser à cela, de préparer des petits témoignages, pas plus de 5 minutes, pour laisser la place à chacun. Témoignages qui mettent en évidence l'action de Dieu en nous et autour de nous, ou au travers de nous. Le samedi d'après, ça va être le premier samedi matin séminaire survol de la Bible. Je vous propose qu'on se retrouve à 8h30. Donc ce sera le dimanche 6 février. Le samedi 6 février, pardon. Et donc ça durera pendant 5 samedis, donc de février à mai. 4 samedis. Je vous rappelle aussi notre culte de baptême le 6 mars. Le club d'été aussi aura lieu la semaine du 11 au 15 juillet. C'est important aussi de prévoir pour les vacances, pour les congés, de prévoir aussi pour les enfants. Donc du 11 au 15 juillet. Des nouvelles de certains parmi nous, des nouvelles d'Annelise. Annelise devait sortir de l'hôpital dimanche passé. En fait, elle est sortie un petit peu plus tard parce qu'elle a eu entre-temps une pneumonie. Elle est sortie en fin de semaine. Annelise est à la maison, donc. Le retour n'était pas facile. Elle est encore fatiguée. Elle dort beaucoup. C'est important de continuer à penser à elle, de continuer à prier pour elle. On peut aussi la visiter. Moi, je vous propose de lui téléphoner avant parce que vu qu'elle est fatiguée, si elle reçoit tout d'un coup plusieurs visites dans la journée, c'est peut-être mieux de l'appeler. Mais c'est important de penser à elle et de prendre aussi du temps pour Annelise. Pensons aussi à Rachel. Donc, après l'accouchement, qui était début décembre, Rachel est restée fatiguée. Rachel est aussi malade. C'est important de penser à elle. Elle n'est pas bien. De la peine à remonter la pente après l'accouchement. Leur fille Odélia va bien. Ça fait plaisir. Mais c'est important aussi de continuer à les soutenir par la prière, peut-être une petite visite aussi, à vous de voir, mais c'est important en tout cas de penser bien à eux. Cette semaine, on vous invite à prier pour les chrétiens qui sont dans les Maldives. Voilà, pour prendre du temps aussi. Donc les Maldives, c'est le point numéro 13 au sud de l'Inde, dans l'océan, les îles. Sinon, je vous invite à vous lever et je vous lis encore deux versets dans Colossiens. Colossiens 3, à partir du verset 16. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Amen. Bonne semaine, bon dimanche.